Bonjour à tous et bienvenue à tous les supporters de la Belgique.
Dis Guillaume.
Ouais.
T'as pas une idée pour supporter les Diables Rouges, toi?
Un clip vidéo.
Et comment on fait ça?
Il te faut des supporters, un accordéon et une caméra.
Oh.
Radio Foot International.
Les Diables Rouges, je s'entends. Pourtant, il y a des Flamands, des Francophones, il y a tout là-dedans.
Allez, vas-y, Kevin, va au bout!
On a fait un bon match, mais voilà, c'était de la malchance.
Et les Diables sont prêts. Ils sont là.
Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une émission exceptionnelle en Belgique, au Royaume de Belgique, en direct de Bruxelles, la capitale.
Bruxelles aime absolument le foot. Bruxelles a ce côté fantastique de redévelopper des équipes de foot qui ont été mythiques pour les Belges il y a 50, 60, 70 ans. Et en même temps, il y a le foot de quartier, mais alors à très très haut niveau. Bruxelles a aujourd'hui développé une identité qui est très bruxelloise, qui est très belge. C'est assez indéfinissable, c'est pas parisien du tout. C'est une ville qui regorge de bonhomie, d'inventivité, de créativité. C'est une ville très cosmopolite, qui a été un pôle central et neutre parce que petit pays. Donc, être une petite ville a cet avantage.
Chez les Bruxellois, donc, dans un bâtiment historique, le Flagey, nous vous parlerons aujourd'hui du football de ce pays. Petit par la taille, mais grand par ses talents et ses fameux Diables Rouges, en vue de la prochaine Coupe du Monde, puisque nous sommes exactement à 2 mois du coup d'envoi du Mondial. À travers le championnat local, donc, nous parlerons de football, la Pro League, la diversité aussi des clubs et des joueurs, et notamment ceux originaires d'Afrique. Avec nos invités du jour, tous des acteurs du ballon rond en Belgique que je vous présente. Alors, il y a autour de cette table Michel Ngongué. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous êtes ancien footballeur professionnel, international, alors on peut dire zaïrois, puis...
Zaïrois et congolais, j'ai eu les deux.
Exactement, vous avez vécu la transition.
Ouais,
vous avez 2 cannes à votre actif, 1996 et l'an 2000.
2000, oui.
De Cannes, et vous êtes en plus le papa de Cyril Ngongué, dont on parlera, votre fils, qui lui aussi est footballeur professionnel. À vos côtés, il y a Paul-José Mpoku. Bonjour Paul-José.
Bonjour.
Alors vous êtes un joueur toujours en activité, formé au Standard de Liège, vous dites Standard Men.
Ouais,
c'est ça,
hein.
Le terme. International, le Belge Espoir d'abord, et puis ensuite vous avez joué pour la RDC.
Effectivement.
Et vous avez aussi 2 cannes à votre actif.
Yes.
Celle du Gabon 2017 et...
Celle de l'Égypte en 2019.
Voilà, en Égypte. Et vous jouerez avec Ronaldinho demain soir, ici, un match de gala.
En espérant qu'il soit là. Non, effectivement, on va jouer un match de gala avec le Standard, les entre guillemets légendes du Standard et les légendes de Gand. Donc je pense qu'on passera un bon moment.
Ouais, voilà, le plaisir de jouer. Mahamat Haroun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de la fondation Friendly Foot.
Tout à fait.
Et vous êtes co-organisateur d'un prix dont on parlera tout à l'heure, qui est le prix Soulier Ébène. Ensuite, eh bien, il y a un confrère, si vous êtes fidèle à Radio Foot International, vous l'avez entendu notamment en 2018, on s'est reparlé aussi au moment de l'Euro. Bonjour Pascal Simé.
Bonjour Annie.
Alors vous avez été joueur de football, vous aussi, à un moment?
Oui, à un moment, ouais.
Hein.
Et il y a un moment.
Il y a un moment. Ouais. Mais vous êtes notre confrère, vous travaillez à l'RTBF et notamment vous présentez l'émission Complètement Foot.
Oui, tout à fait.
Et puis notre Tintin reporter, celui qui nous a attirés ici dans ce guet-apens merveilleux, Martin Guez. Bonjour Martin.
Bonjour, j'espère que vous ne regrettez pas trop Annie. Bonjour à ces messieurs.
Aucun regret. David Finzel, évidemment, est là fidèlement pour m'aider à préparer l'émission et Laurent Salerno est à la réalisation ici à Bruxelles. Radio Foot, c'est parti. Nous voilà donc installés au Flagey, l'ancienne maison de la radio de la Belgique, construite en 1935 et devenue il y a 25 ans un pôle culturel dans ce quartier et dans la ville. Le directeur des lieux de ce style du bâtiment Art Nouveau, Gilles Ledur, nous offre une visite de quelques minutes. Vous allez entendre une petite croisière à bord du Flagey puisqu'il est surnommé le paquebot.
Un paquebot parce qu'il en a la forme, ou du moins il est inspiré par les formes des grands paquebots du début du XXe siècle. Donc, ce qu'on appelle à Bruxelles le paquebot, effectivement, la radio de la place Flaget. Voilà, tous les Belges connaissent ce bâtiment. Comme à Paris, tout le monde connaît, évidemment, la maison de la radio. Et c'est donc un bâtiment iconique qui a été construit en seulement 300 jours ouvrables. On a commencé en 1935 et le bâtiment était ouvert au public en 1938. Sachant qu'à ce moment-là, la radio était quelque chose de très très complet, puisqu'il y avait très peu de possibilités, ou du moins elles étaient lourdes à utiliser, à faire du pré-enregistrement. Et donc tout se faisait, je dirais, en direct. Les orchestres, les troupes de théâtre qui faisaient les pièces radiophoniques, et puis évidemment tout le travail journalistique, etc., etc. Puis évidemment, ce paquebot, il est devenu trop petit. Le bâtiment a été rattrapé par l'histoire et par l'évolution technologique des années 60 et 70. Et là, pendant quelques années, le bâtiment s'est retrouvé vide. Et en 97, le bâtiment est devenu des salles de spectacle dédiées à la musique et à l'image, puisque nous avons aussi des salles de cinéma.
On va visiter ?
Avec grand plaisir. Donc voilà, on passe... Ce bâtiment, il a été construit comme un oignon. Au milieu, il y a des espaces qui sont les espaces sonores, les espaces où on produit le son. Et autour, comme une pelure d'oignon, il y a des couloirs, d'autres espaces, à nouveau des couloirs, à nouveau des espaces. Ce qui fait qu'au centre, vous avez une isolation acoustique parfaite par rapport au bruit qui pourrait pénétrer de l'extérieur. Et ce progrès technique absolu, il est aussi symbolisé par un studio que j'aimerais bien vous faire découvrir. C'est le studio 1 en sous-sol. Allons-y. Alors, il y a peut-être une répétition à voir.
Mais y a-t-il un lien entre, ou une histoire entre le bâtiment Flaget et le football ?
Alors, c'est une bonne question. Le lien le plus fondamental, c'est celui que tous les Belges, et surtout les plus anciens parmi nous, ont connu, c'est que c'était le bâtiment de la radio. Et que tout simplement, toutes les émissions de sport du dimanche après-midi, moi-même, enfant, je m'en souviens de quelques-unes, étaient diffusées à partir de ce bâtiment. Et donc, tous les grands de l'époque qui sont passés par ici, alors, je ne pense pas à un footballeur, mais à un cycliste. Eddy Merckx connaît ce bâtiment par cœur.
Est-ce que durant les grands événements que sont, par exemple, la Coupe du Monde ou quand la Belgique et les Diables Rouges jouent, est-ce qu'il y a des projections ici, dans votre bâtiment ?
Alors, on en a déjà fait, effectivement. On en fait aussi devant le bâtiment, parce que, comme vous voyez, il y a un très beau parvis avec un super bistrot, d'ailleurs, qui s'appelle Belga, et où toute la jeunesse de Bruxelles se retrouve. Fait que voilà, on aime bien organiser des choses pour le public.
Pour la prochaine Coupe du Monde ?
Bah pour la prochaine Coupe du Monde, qui sera gagnée par les Belges, bien entendu, on fera une grande manifestation populaire devant le bâtiment et dans le bâtiment.
Bon, bah alors bonne chance au Diable Rouge.
Merci beaucoup, je leur souhaite également bonne chance. Les Français vont tout faire pour gagner, ils ont tout fait pour gagner. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle du beau foot. C'était un peu le pot de terre contre le pot de fer. Mais
vous êtes sur la ligne Thibaut Courtois.
Peut-être. Je suis belge après tout.
Michel Ngonge, ça vous dit quelque chose, vous, ce bâtiment vous le reliez aussi au football ?
Non, pas spécialement. Plus par rapport à la beauté du bâtiment. Parce que je suis bruxellois donc, et j'habite pas loin d'ici. Et depuis que je suis plus jeune, venir au marché le dimanche, passe Flaget, donc les rendez-vous au Belga en bas, c'est un bâtiment emblématique de Bruxelles. Donc, mais je savais qu'il y avait une radio, il y avait la radio belge, mais c'est pas du tout à ça que je pense quand je suis à passe Flaget. C'est plutôt, on a Ixelles, quoi. Donc Ixelles, c'est une commune qui est très cosmopolite et qui bouge bien, donc voilà. Et le bâtiment est beau.
Ouais. En tout cas, Pascal Simé, c'est un bel écrin pour parler de football ici.
Ah, c'est voilà, une localisation splendide. En plus, on a une très belle vue sur les étangs d'Ixelles aussi. Donc c'est vraiment sympa.
Alors on va en parler de ces Diables Rouges, les Diables Rouges et le Mondial.
Et Courtois qui capte ce ballon.
Et là il y a possibilité en reconversion avec De Bruyne.
Allez vas-y Kevin, va au bout. Exceptionnelle de la droite de Meunier. Voilà la passe.
Ils vont le faire.
Ça va être le but. Meunier pour
Lucas. Ils vont le faire.
Et c'est...
Je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit.
Cette victoire à l'arraché de la Belgique en huitième de finale du Mondial en Russie, où elle atteindra finalement les demi-finales. Pour cette génération composée de stars, Courtois, De Bruyne, Lukaku, Witzel ou encore Dries Mertens et Carrasco, cette équipe qui avait aussi atteint les quarts de finale à l'Euro de 2020-21 et la demi-finale de la Ligue des Nations, Pascal Simet, on lance la discussion. Est-ce que c'est l'année de la Belgique cette année et cette Coupe du Monde?
2018 était l'année de la Belgique, oui, en effet. Peut-être que même 2016 était l'année pour l'euro, était l'année ou jamais. Moi, je pense, alors modestement, je ne vais pas me faire des amis, mais je pense que l'âge d'or est passé. Comme on est à Bruxelles, un peu à l'instar de ce qui s'est passé dans le championnat de Belgique la saison dernière, ce petit club qu'est l'Union Saint-Gilloise, qui était un promu, qui n'a pas gagné le championnat, c'était l'année ou jamais, parce que toutes les planètes étaient alignées. Et en 2018, pour la Belgique, tout était aligné. C'est-à-dire que il y avait eu ce match exceptionnel dont on vient d'entendre des bribes face au Japon. Il y a eu le Brésil en quart de finale. Les joueurs qui avaient atteint un niveau, Eden Hazard qui était au-dessus de la mêlée. Tout était parfait. Sauf qu'on a buté sur une équipe qui était sans doute un peu plus expérimentée en demi-finale et qui peut-être voulait plus la victoire que le beau jeu.
Paul José Mpoku, vous qui êtes un international, un joueur, comment vous voyez-vous cette équipe de Belgique pour la prochaine Coupe du Monde, alors, puisqu'elle avait raté le coche en 2018, peut-être avec d'autres trophées, l'Euro, la Ligue des Nations?
Bah, je suis d'accord un peu avec ce que Pascal dit. Hein. Je pense qu'en 2018, c'était l'année pour la Belgique d'essayer au moins de...
La génération dorée, c'est passé?
Oui, je pense.
Pourquoi? Ils ont vieilli, il n'y a pas de renouvellement.
C'est plutôt, je pense, quand tu regardes toutes les équipes actuelles, la France, quand tu regardes l'Espagne, il y a un renouvellement.
La France, vous savez qu'on a 11 blessés en gros sur 11 joueurs.
Oui, mais il n'y a pas de problème, il y a des blessés, mais il y a assez de joueurs pour les remplacer. Tandis que nous, voilà, si tu n'as pas Hazard ou De Bruyne, ou même Witzel, qui a l'âge, mais il est toujours aussi fort, et c'est des joueurs qui sont difficiles à remplacer. Quand tu compares avec la France, Pogba, il peut ne pas être là. T'as Tchouami, t'as Kamavinga. Et je pense que c'est ça qui nous manque un peu avec la Belgique.
Que pensent les supporters des Diables Rouges, avant que je vous donne la parole, Michel et Haroun? On va écouter eh bien, aussi un peu la voix de la rue. Martin s'est rendu au stade d'Anderlecht le week-end dernier.
Ça va être compliqué parce que les huitièmes de finale ou les quarts de finale, ça va être contre des grosses équipes. On y croit parce qu'il faut toujours y croire, je pense, mais ça va être compliqué. Il faut vraiment que tous les joueurs soient au top au bon moment. En tout cas, c'est peut-être mieux que ce soit maintenant la Coupe du Monde qu'il y a 3-4 mois, parce que là, c'était plus compliqué. Voilà, d'ici 2 mois, tout le monde sera fit et prêt, à mon avis, à faire un bon tournoi, on espère.
Bah, Lukaku, forcément, c'est un enfant d'ici, donc voilà. Et puis De Bruyne, hein, indéniablement, un des plus grands talents qu'on a. Franchement, j'espère de tout mon cœur qu'on va pouvoir prouver quelque chose cette fois-ci, parce que je pense qu'il y a du talent et je pense qu'on mérite maintenant d'avoir un peu de résultats. Quand même toujours très très fier de ce qu'ils ont accompli, mais voilà, maintenant on espère aboutir. Alors moi, je resterai très positif, je pense qu'il y a encore des talents à venir, mais c'est vrai que même pour eux, je pense que ce serait bien d'aboutir à un grand succès maintenant.
C'est une génération dorée qui n'a jamais rien gagné. Donc je pense que c'est plutôt une génération en cuivre.
Vous avez la dent dure contre eux?
Oui, non, je ne les aime pas du tout. Ils sont surcotés. Ce n'est pas une génération tellement talentueuse qu'on le pense. Je n'y crois pas.
Maintenant, on peut jouer le rôle un peu d'underdog. Ça pourrait nous jouer un bon rôle. Par contre, on n'est plus les favoris, et je pense que ça, c'est clair. On a des jeunes qui montent. Maintenant, notre génération dorée, elle vieillit. Puis en plus, il y a quelques joueurs un peu en méforme à cause des blessures. Maintenant, on a encore De Bruyne qui est au top de sa forme. Eden Hazard joue un peu moins, mais je pense que chaque fois qu'il met le blason des Diables Rouges, il parvient à mettre du tonnerre. Donc on a tout le temps une possibilité de gagner avec ces deux-là.
Martin, vous y étiez. Finalement, on aurait dit qu'ils avaient déjà écouté le début de l'émission,
ouais,
vos supporters.
Ils sont un peu amers, forcément, les supporters d'Anderlecht aussi vivent un petit déclassement au niveau de leur club. Donc voilà, ils mettent un peu ça aussi sur l'équipe nationale. Mais bon, ils le disent aussi, il y a des motifs d'espoir. Il y a encore des grands joueurs, il y a quelques jeunes qui arrive. Voilà, peut-être que la grande période est passée, comme le dit supporter qui nous parle d'une génération de cuivre plutôt qu'une génération dorée, mais il y a encore des petits reflets d'or quand même dans cette équipe.
Vous avez tous sourire, Mahamat Haroun, cette expression pas dorée mais de cuivre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette équipe qui impressionne encore, qui a été si longtemps première au classement FIFA international, voire maintenant deuxième juste derrière le Brésil?
Oui, mais écoutez, c'est juste vrai qu'au départ, je me suis présenté comme vice-président de l'association Friendly Foot. Mais ici, en Belgique, il faut dire, dans le monde du football, on me connaît plus sous le nom de Papa Haroun. Mon fils lui-même, il a été joueur international à 7 reprises. Il est encore actif. Il a presque 37 ans. Donc, je vous ai rencontré sur le terrain. Et moi, j'ai même mon avis que cette génération, comme toute chose, ça se prépare. Effectivement, l'équipe belge, c'est en 2008, quand elle était aux Jeux Olympiques, où elle a terminé 4e, donc la meilleure équipe d'Europe. Là, je crois qu'il y a eu un esprit vraiment qui s'est fondé, un esprit de famille avec des joueurs Fellaini, Dembélé, qui sont maintenant comme mon fils aussi, qui sont déjà à la retraite, Vincent en compagnie. Et je crois que ça a vraiment permis à la Belgique pendant un certain temps de rester dans le haut du football mondial. Mais malheureusement, le jour de la finale, ils sont tombés sur, allez, je veux dire, malchance ou peut-être un peu plus d'expérience, que je crois que c'est Michel qui a parlé. Et ils n'ont pas pu vraiment ramener quelque chose. Mais sinon, c'était vraiment... Allez, mais comme toute chose, il y a eu des Hollandais avant, il y a eu des Français avant. Donc je crois que chacun a une période, on ne sait pas expliquer pourquoi, mais chacun a une période comme ça de dominance, comme actuellement avec De Bruyne et tout. Mais quand même, on ne peut pas remplacer des joueurs comme Vincent Kompany, des Moussa Dembélé. Vous voyez, donc ce sont ces choses-là, je crois qu'aujourd'hui, ben, peut-être s'ils retrouvent, il y a les frères de, allez, qui sont là, encore en train de prendre leur place, mais... C'est difficile de dire qu'ils vont avoir cette chance que normalement une génération peut avoir. Quoi. Voilà.
Michel Ngongué, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Ce qu'ils ont dit pour le moment, c'est tout à fait juste. Mais ce que je veux rajouter, c'est qu'il y avait la bonne équipe, c'était en 2018, quand ils ont raté le coche contre la France. Parce que quand tu gagnes contre le Brésil, après tu peux espérer, vraiment, la porte était vraiment ouverte. Et je pense que tactiquement, il faut presser où ça fait mal. Tactiquement, quand tu regardes le match contre la France, on était nulle part. Je pense qu'il faut reconnaître qu'à ce moment-là, Martinez n'a pas élevé son équipe pour pouvoir jouer contre la France. Et le malheur, c'est qu'on sent que derrière, des équipes qui étaient en train de dormir, comme l'Espagne, le Pays-Bas ou le Brésil, ils se sont renouvelés. Donc la Belgique ne s'est pas renouvelée. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de nouveau meneur dans l'équipe, donc je pense qu'on a raté le coche en 2018 et que ça ne reviendra pas de sitôt.
L'équipe de Belgique, justement, se retrouve quand même dans un groupe avec le Canada, le Maroc et la Croatie. Pascal, y a aussi un facteur chance quand même, toujours dans une compétition. Donc on peut se dire, on peut espérer, et les supporters, on vient de les entendre, l'espèrent que ça peut bien se passer aussi. Dans le groupe F, le huitième de finale.
Ça peut bien se passer. Regardez, il y a un peu plus d'un an, personne n'aurait misé 1 euro sur la victoire de l'Italie à l'euro. Parce que c'était une équipe, même pas en reconstruction, mais en construction. Ici, oui, tout est possible.
Et elle ne va pas à la Coupe du Monde.
Donc c'est toujours le même débat. Est-ce que, j'ai posé la question à des supporters, est-ce que vous auriez préféré être champion d'Europe il y a un an et ne pas aller à la Coupe du Monde, ou ne pas gagner l'euro et aller à la Coupe du Monde? Donc, on est toujours un peu dans le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Après, vous parliez de chance, où il faut la forcer. Dans une Coupe du Monde, en fait, il ne faut pas être bon dès le premier match. Je pense qu'il faut essayer de sauver les meubles, entre guillemets, de gagner le premier, le deuxième match. Et puis, toutes les grandes équipes, en fait, elles montent dans les tours. Le problème, c'est que la Belgique, à partir des huitièmes, vu sa partie de tableau, elle va affronter que des ténors. Idem si tu vas en quart et en demi. Donc, le chemin, c'est un peu comme si un Tour de France, au fait, commençait directement avec les Alpes et que vous n'êtes pas super bon grimpeur. Vous avez d'autres qualités. Après, tout est possible. Hein. C'est une Coupe du Monde en hiver aussi. On n'en a pas encore parlé. Et moi, je pense que ça va vraiment déterminer énormément de choses sur la forme du moment, sur la forme des équipes et sur le côté un petit peu, l'aspect rodage aussi. On n'arrive pas en fin de saison, on arrive avant. Est-ce que les joueurs... Dans quel état mental et physique ils vont arriver? Est-ce qu'ils ne vont pas se donner avec leur club? Est-ce qu'ils vont en garder sous la semelle? Il y a plein de facteurs, en fait.
Martin, vous êtes allé hier à Tubize, donc, où se retrouvent les Diables Rouges, et vous avez rencontré l'ancien attaquant des Diables Rouges, Mbo Penza, qui, lui, a disputé déjà deux Coupes du Monde en 1998 et 2002 et qui nous donne son sentiment sur cette équipe.
C'est l'aboutissement d'un joueur de foot quand on voit ça en tant que gamin et qu'on se dit un jour, ça serait génial de pouvoir participer et que toutes les semaines, quand on joue entre les amis, qu'on fait nos matchs entre nous quand on a 9 ans et que vous êtes là, premier match en Coupe du Monde. Moi, c'était en France, et qu'il y a l'hymne national, où on se dit, il y a cet hymne national, il y a la Coupe du Monde. Nous, c'est le début. Donc, c'est vraiment toute une histoire qui est vraiment géniale. Et quand on peut prétendre à essayer de passer un tour, c'est encore plus beau. Cette génération veut vraiment essayer de montrer que c'est la meilleure génération que la Belgique n'ait jamais eue. Et quand on est des compétiteurs, on va aller au-delà. Et au-delà de la dernière Coupe du Monde, c'est troisième. Donc j'espère, en tout cas pour nous, qu'ils vont être des très bons compétiteurs.
Alors être très bons compétiteurs, Paul-José Mpoku par exemple, pour vous, qui représente, on parle beaucoup de la génération de ceux qui étaient en 2018, qu'on connaît bien, qui représente la nouvelle génération, ceux qui vont pousser les autres et sur lesquels on fonde des espoirs ici?
Il y a des jeunes qu'on voit derrière, c'est pas vraiment des jeunes, je pense à des gens comme Youri Tielemans, qui a goûté un peu la génération dorée et qui sera, on va dire, un des leaders de la prochaine génération. Je pense à Youri, je pense à... Il y a qui d'autre? Il y a...
Un petit nouveau beaucoup, là, qui vient d'être sélectionné, Zeno.
Je trouve que pour moi, c'est encore trop tôt, sa sélection. Je pense qu'il n'a pas... Il y a beaucoup de joueurs qui ont dû faire 10 fois plus...
Le groupe, c'est ça?
Pour avoir une sélection, donc je trouve que pour moi c'est pas allez j'ai rien contre lui hein, mais non, mais c'est vrai, il y a des joueurs qui doivent galérer pour avoir une sélection, et donc je pense qu'il y a d'autres joueurs peut-être qui ont fait un travail peut-être depuis des années qui méritent, tu vois. Donc
Michel Ngongué,
je suis d'accord avec Paul-José, c'est-à-dire que il faut pas. Il y a des joueurs qui méritent beaucoup plus leur sélection aujourd'hui qu'un Zino de Mbas. Bon, moi, je l'ai déjà regardé jouer, j'ai déjà fait un peu attention, il y a des qualités indéniables. Mais bon, voilà, il n'a même pas encore joué avec les U21, des espoirs, et on le met directement avec là. Je pense que c'est pour nous faire goûter un peu au groupe et est-ce que c'est la pression internationale. Parce que ça reste comme indéniable pour jouer en équipe nationale. Il faut avoir de l'expérience, quoi. Je veux dire, il faut avoir quand même 15, 20, 25 matchs ou même une compétition dans les jambes pour pouvoir prétendre avoir une place de titulaire.
Le football belge, alors, il est très riche de ses clubs, il est riche aussi de toute sa diversité, et c'est ce dont on va parler maintenant. C'était donc au stade d'Anderlecht, n'est-ce pas,
Ils étaient contents, une victoire contre Courtrai 4-1. Ils chantent Anderlecht champion, ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas vu Anderlecht champion ces dernières années. C'est plutôt Bruges qui a pris le relais, mais Anderlecht qui reste le club le plus titré en Belgique, voilà, ce quartier du sud-ouest de Bruxelles.
La Ligue Europa Conférence actuellement. Alors la Pro League, ces clubs renommés, et évidemment, alors, vous le disiez, tenant du titre, le FC Bruges. Ici, c'est un petit pays finalement de 10 millions d'habitants, mais un terreau, en tout cas talent, où se révèlent des talents. Et aussi les clubs. Et vous avez rencontré, Martin, un joueur comorien.
Tout à fait.
Faïs Selemani, qui est du club de Courtrai et qui adore votre championnat ici.
C'est un championnat qui est porté beaucoup sur l'offensif. Il y a beaucoup de rythme. Donc c'est ça que j'aime bien, moi surtout. Bon, c'est rare qu'il y ait des 0-0. Donc c'est un championnat très animé, qui est toujours plaisant à voir. C'est sûr que ça fait toujours plaisir. Il y a des très beaux stades. C'est un très beau championnat, je pense, qui est un peu dénigré. Je pense qu'il n'est pas... estimé à sa juste valeur. Donc, en tout cas, c'est pour ceux qui viennent, je pense qu'ils prennent beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de personnes africaines. Donc, ça fait toujours plaisir, bien sûr, de se retrouver ici et ensuite en sélection.
Martin ?
Ouais, il n'a pas mis le plus beau but de sa carrière lors de ce match. Il s'est pris un dégagement dans le visage. C'est allé au fond des filets. Mais voilà, c'est un joueur spectaculaire, Faïs Selemani. Il doit plaire à Pascal, puisqu'il est un ancien aussi de l'Union Saint-Gilloise, qui est désormais à Courtrai. Mais voilà, en tout cas, qui s'épanouit dans ce championnat. On voit souvent des buts spectaculaires qui marquent ce joueur comorien.
Matarone, est-ce que ce championnat ici, belge, est sous-coté? Si on en croit, hein, Pascal, le classement UEFA avec les points, on connaît ça et tout, il n'est pas dans les 5 grands championnats européens, comme on dit, il est dans les 10 grands championnats européens.
Ouais, ou dans les 13 pour l'instant. Quoique au niveau du coefficient UEFA, depuis le début de saison, ça se passe plutôt bien parce ouais. que tous les clubs sont invaincus ouais. sur la scène européenne. On ne peut pas en dire autant des clubs français,
non,
par
non,
exemple.
Non, disons-le clairement. Hein,
tant qu'à faire, autant crever l'abcès. Voilà, petite pique. Mais non, plus sérieusement, voilà, je pense qu'il faut, construire et le football a besoin de locomotives. Le club de Bruges, par exemple, pour ce qu'il a mis en place depuis des années, est une locomotive. Il faut maintenant que les autres clubs suivent, tout simplement, comme le disait Polo.
Bah, Matt, vous trouvez, vous, que c'est un championnat sous-coté, malgré tout, qui offre du spectacle? On voit les stades sont pleins. Il y a des magnifiques tifos, comme lors du match Standard de Liège, Bruges, hein, au cours du week-end.
Mais écoutez, c'est vrai qu'on a ici les supporters, ils vivent leur match. Hein. C'est un des pays encore exceptionnels où il y a ça. Et c'est vrai aussi que, il est diminué. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui produit aussi beaucoup de talents dans les clubs. Et c'est ça que aussi leurs talents sont pris. Donc à un moment donné, tous les joueurs qui arrivent à maturité, ils partent dans les autres clubs. Alors il faut de nouveau former des jeunes. Et c'est que parfois les clubs ici n'ont pas beaucoup de temps aussi de former des jeunes. Donc moi je crois que c'est parce que la Belgique produit vraiment des très très bons joueurs assez jeunes, et le fait de partir plus tôt, ben c'est ça.
La philosophie, en fait, je crois qu'ils se sont rendus compte il y a une vingtaine d'années que avant on achetait beaucoup d'étrangers, c'était beaucoup les étrangers qui faisaient le championnat belge, et ils se sont rendus compte au fait qu'ils n'avaient plus les moyens de pouvoir suivre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on va miser sur l'académie, et ça marche très bien parce que ils se font de l'argent comme ça en mettant des jeunes de leur académie et le championnat peut très bien tourner comme ça.
Je crois que quand on les revend trop tôt, parfois, ça peut aussi ne pas permettre de passer un palier peut-être au club. Nous, on voit ça en France, ne serait-ce qu'avec Marseille qui, d'une saison sur l'autre, change complètement son équipe et résultat perd deux fois, n'est-ce pas Pascal, en Ligue des Champions. Mais Michel, parlez-nous de votre fils, vous, parce que c'est peut-être aussi un exemple de ça. Il s'appelle donc Cyril Gonguet et là, il est parti jouer aux Pays-Bas. Il a 21 ans.
En fait,
il n'a pas été bien
non,
formé
c'est pas,
ici.
Non, c'est pas ça. Il était très bien formé en Belgique, mais à un moment, il y a une opportunité quand tu es dans un grand club. Si on te donne pas ta chance directement, tu vas chercher du temps de jeu en Hollande, parce qu'en Hollande, ils aiment beaucoup les jeunes. La philosophie est encore beaucoup plus avancée qu'en Belgique. En Hollande, ils font ça depuis peut-être 30 ans, qu'ils mettent des jeunes. Il y a des équipes où la moyenne d'âge est de 22 ans, des fois. Donc, même on regarde à l'Ajax, on regarde la moyenne d'âge, les gars, ils ont 22 ans. Donc, c'est une question de philosophie. Et la Belgique a compris ça. Et je pense que pour le moment, il y a des grands clubs, et des grands clubs comme Anderlecht, le Standard, même Bruges, mettent des jeunes. Mais je pense que la Belgique et la Hollande, ils ont très vite compris que pour rester compétitifs avec leur potentiel, c'est mettre des jeunes très tôt et de les laisser jouer. Donc il n'y a pas ce phénomène, par exemple, en Allemagne ou même en Angleterre. C'est très rare de voir des jeunes qui sortent des académies. Il y a des petits clubs qui le font, mais ce n'est pas vraiment évident, quoi.
Votre fils qui est à Groningen, c'est ça, cette année Groningen, comme vous prononcez mieux. et qui est international espoir chez les Belges.
Il était international espoir. Il ne l'est plus maintenant parce que, la Belgique, au fait, dans les équipes nationales, on peut sauter de génération. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, vous avez 18 ans et vous êtes dans U19, si vous avez montré que vous jouez dans votre club en tant que titulaire, on vous saute de génération. Donc, c'est-à-dire que vous passez plus les 21, vous allez par exemple directement avec l'équipe A. Donc, il n'a pas eu il n'a pas pris le bon train. Et ça, c'est
le train repasse parfois deux fois.
Oui, non, mais il faut être honnête, quoi. Je veux dire, quand quelqu'un saute une génération qui est plus jeune que vous. Mais vous savez, vous n'avez pas pris le bon train. Et je pense que, voilà, il avait besoin encore peut-être un peu plus de maturité. Et pourquoi pas, dans un an ou deux, réintégrer l'équipe A. Donc ça a lui un peu à déterminer son choix de carrière, quoi.
Vous avez pris le bon train, Paul José. Vous étiez international aussi espoir, vous l'avez été assez longtemps, et puis après, vous avez peut-être choisi d'aller jouer ailleurs pour une autre sélection. Ouais. Et ça, c'est aussi intéressant. C'est peut-être ce qui vous est arrivé, Michel, d'ailleurs. C'est-à-dire, vous avez joué pour la RDC.
Oui, effectivement.
Ben, vous avez été formé en Belgique.
En Belgique, j'ai joué, j'étais capitaine des U18, des U21. Et puis à un certain moment, tu devais faire le choix. C'est soit je devais être patient et peut-être espérer une sélection en équipe nationale belge, où je pense que j'aurais pu, mais peut-être que j'en aurais pas eu 10, peut-être une ou deux. Et puis à cette époque-là, je me rappelle qu'on avait une bonne génération avec le Congo, avec Bakambu, Gael Kakuta, et à l'époque c'était Youssouf Mouloumbou le capitaine qui nous a appelés et qui nous a dit, voilà les gars, je pense qu'on peut faire quelque chose. Venez, on essaye de se mettre ensemble avec le coach Florent Ibengué et on essaye d'aller en Coupe du Monde où on a perdu, allez, je dis toujours qu'on a perdu la Coupe du Monde en une minute parce qu'on a pris 2 goals en une minute contre la Tunisie et on était à ça de l'objectif. Malheureusement, on n'a pas pu aller en Coupe du Monde. Mais voilà, c'est une belle expérience et je crois qu'on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes pour atteindre nos objectifs. Mais voilà, on sait qu'au pays, des fois, c'est pas facile. Surtout nous qui avons grandi ici, on voit certaines choses différemment et d'autres aussi des choses différemment. Donc, des fois, ça colle pas trop, quoi.
Michel, ça vous étonne pas les jeunes qui veulent aussi rester en Belgique, qui sont arrivés ici et qui veulent y rester et qui sont prêts parfois à jouer pour la sélection?
Il faut comparer ce qui est comparable. Je veux dire, vous avez les jeunes d'origine marocaine ont plus facile d'aller au Maroc pour jouer parce que les joueurs sont déjà meilleurs, puis l'organisation de la fédération est tout à fait différente. Moi, quand je suis parti jouer avec l'équipe nationale congolaise, mais c'est un souk, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'organisation, on ne sait pas où on va s'entraîner, les terrains ne sont pas coupés, on ne sait pas si on va avoir de maillot. Donc il y a toute une organisation. Quand on sort d'un championnat européen et on arrive en Afrique, on est déjà fatigué avant de commencer à s'entraîner parce qu'il n'y a aucune organisation. Je pense que les chefs d'État africains, surtout africains, on va dire en dessous du Sahara, n'ont pas compris que c'était une réelle propagande, que le foot, si ça fonctionne bien, c'est une propagande pour le pays. Ils ne s'occupent pas de ça. Je veux dire, Paul José vient de le dire, il n'y a pas d'organisation quand on va jouer pour son pays d'origine. Et ça, c'est où le bas blesse, quoi.
Alors, un exemple quelqu'un que vous avez rencontré hier, hein, Martin Sembopenza, donc, qui, lui, est né à Kinshasa, qui est venu en Belgique et qui était très heureux avec son frère, Émile, de représenter la Belgique, puisqu'il a joué pour les Diables Rouges.
La fierté que j'ai par rapport à l'équipe nationale belge, c'est du fait qu'avec Émile, on est les premiers joueurs d'origine africaine à avoir joué à une grande compétition. Et donc ça restera à vie. Quand c'est le début, c'est le plus compliqué. Parce que avec mon frère, on était les deux seuls dans ce groupe où il n'y avait pas de diversité. C'est pas simple tous les jours, parce que oui, on est différents. Surtout, ça se voit visuellement. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de super, parce que la Belgique, c'est mon pays. C'est le pays qui m'a adopté. C'est le pays qui m'a fait. Et je suis d'origine africaine. Donc, je dois tout à mes origines, parce que ça, c'est ce qui m'a permis de naître sur une terre africaine. Et la Belgique, parce que la Belgique m'a accueilli.
On parle aussi beaucoup de cela en France, bien sûr, Mahamat Haroun, hein, de cet apport de joueurs qui, en même temps, naissent à l'étranger, mais sont formés en France beaucoup, nous, dans nos clubs, et, puisqu'on a beaucoup de centres de formation. C'est une chance aussi pour tous ces joueurs qui viennent. Alors, on a parlé, on connaît Fadiga, le Sénégalais qui a beaucoup joué ici. Il y a des joueurs qui viennent du Bénin, de Côte d'Ivoire, donc qui enrichissent nous, notre championnat, mais aussi celui de Belgique.
Oui, tout à fait, exactement, mais on doit quand même aller, c'est tellement quelque chose qui est récurrent, qui est devenu, allez, en Afrique, les gens, ils en parlent, Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'Africains, ils prennent, allez, des jeunes qui prennent, allez, s'embarquent sur des bateaux et tout ça, ils essaient de traverser pour venir et avoir leur chance. Et toujours, aller à des managers véreux et tout ça, qui ils font ça. Donc pour nous aussi, c'est un problème. De l'autre côté, c'est une réalité. C'est vrai que les jeunes...
On en parle souvent dans l'émission et on met souvent en garde les jeunes qui se retrouvent face à des agents qui leur font miroiter malheureusement n'importe quoi.
Ben, c'est pour ça que notre association, actuellement, on est sur un projet qui consiste justement à amener des jeunes de, allez, par exemple, du Sénégal, leur offrir, il y en a sur, allez, sur 5 ans, il y a 60 qui vont arriver, et c'est justement dans l'objectif de lutter contre qu'ils viennent aller avec des embarcations, je vais dire, au hasard, et se noyer à la mer. Donc c'est pour ça qu'on essaie quand même, comme ça, ils auront de l'autre côté, peut-être, ils vont voir qu'il y a un moyen de venir et apprendre quelque chose et retourner. Alors en ce moment-là, ils peuvent devenir soit des joueurs, soit des, allez, les métiers du sport. Ça, c'est maintenant, c'est un projet qui est en route avec notre association aussi pour lutter justement contre ces phénomènes où il y a, sur 100, par, allez, sur 100%, il y a, on s'est rendu compte qu'il y a 85% quand même, ce sont des jeunes qui viennent avec l'esprit pour faire du football. Donc c'est quand même énorme. Donc 85% des jeunes qui se noient en mer, c'est vraiment pour faire du sport. Donc c'est pour ça que l'Europe a pris, et l'Afrique aussi, cette décision de faire quelque chose.
Le Sénégal notamment a beaucoup conscience de ça avec ses centres de formation qu'on connaît, Diambar, Sacré-Cœur, Génération Foot, qui sont... Mais c'est, Pascal, c'est aussi une chance pour la Belgique, cet apport.
Moi, je vais vous donner un exemple. Autant l'équipe masculine est métissée, et où il y a une vraie pluri-identité, avec des joueurs qui viennent de plusieurs horizons, autant l'équipe féminine, elle n'est pas du tout métissée. Et donc là, on a un vrai retard à ce niveau-là. Donc la Belgique, l'équipe féminine qui a fait quart de finaliste à l'Euro, il y avait une seule joueuse issue de l'immigration, Cassandra Missipo. Et donc on n'a pas encore. Donc il ne faut pas banaliser non plus ce métissage de la Belgique. Vous le disiez, la Belgique, en début d'émission, la Belgique est un petit pays, mais je pense que le brassage, il a réussi. Et c'est un fils d'immigré qui vous le dit. Moi, je pense que on a.
Vous venez d'Italie.
Moi, je viens d'Italie. Je veux dire, mais voilà, mon père a pas fini. Il a fini l'école primaire et il est venu. Il a commencé à travailler dans les champs et puis il est venu en Belgique pour travailler. Et la Belgique a permis à mes parents d'améliorer leur statut social, m'a permis de faire des études, etc. Mais au-delà de ça, c'est pour ça que le sujet sur les binationaux, qui est très sensible en France, l'est beaucoup moins en Belgique. Beaucoup moins, parce qu'on se pose moins la question. Vous savez, quand il y a un Belgique-Italie, ben, fatalement, j'ai un devoir de réserve. Mais quand j'entends l'hymne national italien, c'est quelque chose, à l'intérieur, je frissonne, je tremble plus que sur une Brabançonne, par exemple. J'en ai jamais parlé, mais je le dis. Alors, c'est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas binational de juger quelqu'un qui fait un autre choix. Ah oui, mais il a été formé par un club français, il doit jouer pour l'équipe nationale française. Ou il a été formé par un club belge, il doit choisir. Non, je pense qu'il ne faut pas forcer les choses. Tous les joueurs qui ont fait des choix, je pense qu'ils l'ont fait en leur âme et conscience, pour la majorité d'entre eux. Et c'est pour ça que ça marche.
Paul
c'est
José.
Vrai, c'est vrai, moi, on me demande souvent, pourquoi tu ne demandes pas à ce joueur-là de venir, etc. Je dis non. Moi, j'essaie de faire la méthode un peu, j'appelle ça la méthode Youssouf Moulumbou, parce que c'est lui qui nous a un peu aidés. Il a dit, viens voir de toi-même, et puis après, tu fais ton choix. Et donc, c'est la même chose que je dirais à un jeune, tu vois de toi-même, tu viens, si tu viens à un match amical, tu viens, tu regardes, t'aimes bien, tu restes, t'aimes pas, tu restes. Parce qu'après, si ça se passe pas bien, il peut dire, ah ben, c'est toi qui m'as amené ici. Donc, comme il a dit, ça doit venir de l'inside, ça doit venir de l'intérieur.
Pour revenir sur ce que disait Bompenza tout à l'heure, voilà, c'est cette fierté aussi d'être... un pionnier, quelque part, d'avoir été un des premiers binationales à endosser le maillot des Diables Rouges pour les Coupes du Monde 98-2002. Et derrière, on a vu aussi que ça a ouvert une voie beaucoup de joueurs d'origine congolaise ou marocaine, d'ailleurs, en équipe de Belgique. On pense donc à Compagnie, à Moussa Dembélé, dont vous parliez tout à l'heure, Mamataro, ou encore, bah, évidemment, Romelu Lukaku, l'attaquant qui est blessé en ce moment, mais voilà, qui est le meilleur buteur, si je ne me trompe pas, de l'histoire de la sélection.
Michel Nguenguet, comment ça s'est passé pour vous?
Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que, comme je n'étais pas sélectionnable pour la Belgique, j'avais déjà 25 ans, et j'ai reçu un appel du pied du Zaïre à l'époque. Et moi, j'ai été par curiosité, au fait. J'ai vraiment été pour aller voir ce qui se passait. Et en plus, ça me permettait de rentrer dans mon pays d'origine. Donc, j'ai fait d'une pierre deux coups. Donc, ça m'a plu. J'ai bien aimé. Je suis parti. J'ai été joué. Mais je ne conseillerais pas, par exemple, à mon fils d'y aller, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que...
Pareil, vous pensez que ça doit venir de lui-même?
Voilà,
de lui-même.
Ça doit venir de lui-même. Je ne lui dirais pas, va jouer pour ton pays. Parce que moi, l'expérience était bonne pour moi. J'étais déjà un peu plus âgé, j'avais 25 ans. Mais sincèrement, c'est lourd, quoi, d'aller jouer pour son pays. Parce que l'organisation, elle est désastreuse, quoi, vraiment.
Mais ça s'est amélioré. Mais
oui.
Non, mais je te comprends. Il y a des choses, en fait, que... C'est pas facile.
C'est pas facile.
Il y a 20 ans d'écart, à peu près. Voilà. Mais, vous,
mais,
c'est pas des années
90. On se comprend. On se comprend. C'est pas quelque chose que je dis de manière négative pour être négatif. Ouais. Donc c'est vraiment... C'est une question de feeling, quoi, je veux dire.
On imagine, parce qu'on en parle déjà parfois sur l'antenne. Alors, parlons un peu de ce prix qui existe ici et qui récompense les joueurs africains ici en Belgique.
African Awards. These are the best players and talents of African origin in the kingdom. Only one can remain.
Only one can remain.
Five players have been nominated. African Awards.
Notre star du jour, Bernard Lama, l'ancien gardien de George Lenz. L'enveloppe est là, c'est comme aux Oscars, bien entendu.
Alors, qui est l'heureux vainqueur? Nisken Skebano.
Voilà Nisken Skebano.
Ça, c'était en 2015. Hein. On a voulu vous mettre dans l'ambiance de ce genre de prix. Martin, c'est un prix organisé ici un peu à l'image de celui de RFI.
C'est ça. À l'époque, Nisken Skebano qui jouait à Charleroi ou à Genk, je ne sais plus, à Charleroi. Et cette année, c'est Tariq Tissoudali, international marocain, qui l'a obtenu. Mais voilà, vous en parlerez forcément mieux que moi, Mamat Haroun. Vous êtes associé avec votre association Friendly Foot à la remise de ces African Awards et de ce prix du soulier d'ébène.
Tout à fait, tout à fait. Donc en fait, les African Awards, c'est d'abord un événement culturel qui se passe où on met en avant la diaspora, les personnes de la diaspora africaine issues de l'Afrique. Ça peut être aussi... ça peut être si Grobelaar il jouait en Belgique, je ne sais pas si tout le monde connaît, les joueurs de Bala Zimbabwe, mais pour nous c'est un Africain. Donc il aurait pu aussi bien gagner un soulier d'ébène ici en étant de race blanche, si on peut dire, mais Africain. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut bien vraiment voir, que ce n'est pas uniquement clôturé ou dans un esprit autre que culturel. Et ça rejoint aussi des autres attributions, des gens qui ont fait quelque chose dans leur métier. Par exemple, M. Compagnie qui a été élu le premier bourgmestre d'origine africaine. Tout ça, bon, ce sont des choses des athlètes qui ont gagné Jeux Olympiques d'origine africaine. Et alors, ça peut être aussi des joueurs qui ont fait une action à travers un geste social comme Eden Hazard, par exemple. Ben, vous voyez, ils reçoivent un prix dans les African Awards.
Donc, il y a les prix du mérite, ce que vous évoquiez pour Eden Hazard, par exemple. Hazard. Et nous, celui qu'on voit le plus en France, celui dont on parle le plus souvent, c'est le prix du soulier d'ébène.
Voilà, qui est vraiment le moment phare de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui motive aussi les joueurs. Donc, c'est toujours dans cet esprit-là. Et Friendly Foot, l'association Friendly Foot, est rentrée en 2008 dans les African Awards. Pourquoi? Ça existait déjà. Donc actuellement, les African Awards ont à peu près 32 ans. Et c'est parti à partir de AC Pro. Et actuellement, les organisateurs du soulier d'ébène, c'est l'association Friendly Foot, avec un comité organisateur où on est à quatre. Il y a Karine Chukou, Moro Mokota, Isaïdi Augustin et moi-même. Et alors, on a toute une équipe autour de ça pour le marketing et autres. Et chaque année, on décerne ce prix aux meilleurs joueurs d'origine africaine.
Pascal, on en parle beaucoup ici, de ce prix soulier d'ébène.
Depuis les années que ça existe, ouais, on en parle de plus en plus. Enfin, on en parle chaque année parce qu'en plus, c'est bien organisé. C'est pas parce que ma mate est à ma gauche que je le dis, mais voilà, il y a un vrai suivi au niveau marketing, etc. Ça, les soirées sont bien organisées. Et puis, il y a une chose aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, qui est très importante, c'est que chaque fois, le vainqueur de ce prix-là, souvent, s'il quitte la Belgique, il fait une belle carrière après. Je veux dire, on ne donne pas ce prix juste par sympathie. Parce que souvent sur le terrain, c'est qu'il a presté ce joueur-là.
C'est important ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. C'est que chaque fois que... Moi, en fait, j'ai participé... Moi, je connais très bien les précurseurs de ce prix, parce que c'est des copains de jeunesse, en fait. C'était Pierre Bidichat et Mauro Mokuta.
Parce que ça a commencé dans les années 90.
Ça a commencé dans les années 90. Donc, c'était dans un premier temps, il y avait le soulier d'or, belge. Et puis, ils disaient, mais on n'a rien pour notre communauté. Et ils ont fait ce challenge. C'était des gars qui travaillaient dans la vie commune. Ils n'étaient pas du tout dans le sport. Et à part Pierre Bidichat, qui était journaliste sportif. Et puis, ils ont fait ce prix. Et chaque fois qu'il y a eu des joueurs comme Baba Yaro, des Pierre Company, Amokashi, c'était des grands joueurs, quoi. Et tu as tout à fait raison. Ils ont tous fait une carrière derrière. Et ce prix a quand même apporté beaucoup à la communauté africaine, quoi, énormément. Et il rapporte encore énormément à la communauté africaine.
Bah, c'est un peu le point en commun avec le prix Marc Vivafoué, parce que pratiquement à chaque fois qu'on l'attribue, le joueur quitte le championnat de France. Vous ne l'avez pas encore gagné, mais peut-être que vous le gagnerez.
Une fois, je crois, troisième, mais j'avais gagné le prix du mérite, je pense, pour une œuvre, je pense, que j'avais fait, je pense, à Verviers ou quelque chose comme ça.
Pourquoi il n'avait pas gagné le Manate ? Parce que cette année-là, il le méritait, quand même.
À cette question-là, je vais directement répondre à Pascal, parce qu'on a aussi un jury qui a attribué le prix de soulier d'ébène. Donc, ce n'est pas nous qui disons, on a un jury donc, composé enfin, des journalistes sportive, ouais, c'est très bien.
J'avais voté pour Polo, je pense.
Voilà, donc il y a aussi toutes les équipes aussi qui reçoivent un bulletin pour voter. Donc c'est vraiment quelque chose qui est mis au point et c'est pour ça qu'on a rarement un soulier d'ébène qui déçoit.
C'est bien organisé.
Pour terminer cette émission, je vous propose de réécouter le personnage qui nous accueille ici dans ces locaux, Gilles Ledur, qui nous parle de sa vision du football comme lien social dans la société bruxelloise.
Quand vous pouvez retrouver dans le stade le dimanche après-midi à Anderlecht les grands patrons de l'industrie belge et le gratin du monde politique en mangeant le paquet de frites et en regardant le match, ça a quelque chose d'attendrissant, c'est fantastique. Et en même temps, ça veut dire que la démocratie, ça peut véritablement fonctionner. C'est des messages importants. Et je crois qu'aujourd'hui, justement, le sport peut amener, avec la musique, une sorte de nouvel espoir pour des jeunes. Ça veut dire que quand vous avez un talent pour quelque chose, ça peut vous procurer un plaisir, ça peut vous procurer du sens dans la vie. Et ça peut être reconnu par la société. Et je crois que Bruxelles réussit cet exercice. Il est fragile, et il est très fragile quand en 2016, nous avons découvert qu'il y avait aussi des gens qui se sentaient exclus de notre société. Donc c'est très grave. Mais je crois que Bruxelles a cette capacité d'être résiliente et de se dire, bon, allez, on y va. Avec les moyens du bord, on peut développer quelque chose de bien. Et je crois que ça, c'est très belge.
C'est très belge, et malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus jusqu'à ce magnifique studio du bâtiment Flagey. On vous souhaite bon vent sur les terrains, Paul-José Mpoku.
Merci beaucoup, oui.
Hein? Bon vent. Vous espérez trouver un club très rapidement?
Non, j'ai déjà un truc, mais...
Vous avez déjà quelque chose?
Le championnat est inversé, donc...
Ah d'accord. Et c'est où?
Je ne le dis pas.
Pas de scoop alors dans Radio Foot International aujourd'hui, mais on vous rappellera quand vous aurez,
pas de problème.
Quand vous pourrez jouer. Merci beaucoup à tous, merci aussi à ceux qui nous ont accueillis, donc Gilles Ledur et Eva, et puis merci Martin pour cette excellente idée d'être venu jusqu'à Bruxelles pour parler merci du football beaucoup. Ici. Merci messieurs et merci. Bonne journée.